Making Waves. Avec l'Alliance pour la lecture. 26 mars 2024, deuxième rencontre nationale pour le développement de la lecture à la Maison de la Poésie à Paris.
On est dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie, on est au sous-sol. C'est aujourd'hui les deuxièmes rencontres nationales de l'Alliance pour la lecture. On a été rejoint en plateau par Margot Canu de l'association Lire et Faire Lire, Thelma Dassès et Émilie Petit-Étienne du... Qu'est-ce que c'est? C'est une troupe?
C'est une compagnie de spectacle
vivant. C'est une compagnie.
De spectacle vivant,
voilà,
qui travaille aussi dans l'espace public.
Ok, on parlera de ça tout de suite après. Et Laura Safier de l'association Peuple et Culture. L'idée de cette table était de parler du plurilinguisme. Le sous-titre donné par l'Alliance à ce plateau était des actions au pluriel, et on avait envie d'avoir avec vous des retours d'expérience sur ces questions de transmission, d'échange, quand ils vont concerner plusieurs langues. Alors, pour qu'on se mette tous un petit peu d'accord sur le vocabulaire, ce que ça raconte pour nous, qu'est-ce que c'est pour chacune d'entre vous cette idée de plurilinguisme, cette idée d'aller vers l'autre, d'aller vers sa langue et de travailler avec sa langue à lui, finalement. Émilie, est-ce que vous voulez commencer?
Alors, pour la compagnie, c'est devenu un sujet de réflexion parce que c'était un constat. La compagnie travaille en implantation territoriale dans une ville dans l'Essonne qui s'appelle Grigny, où la structure voulait valoriser le patrimoine, qui c'était environnemental, artistique, architectural, mais aussi les personnes qui y vivent. Et la spécificité de Grigny, c'est que c'est une ville où il y a énormément de langues qui se parlent. Donc la question du plurilinguisme est venue parce que comment on valorise ce patrimoine, déjà un patrimoine, et comment on travaille avec ses habitants qui parlent toutes ces langues.
Et ce sont quelles langues, par exemple ?
Ça dépend des flux migratoires aussi, donc ça peut être très changeant. Il y a énormément d'arabes, mais il peut y avoir il y a du turc, du tamoul, des langues asiatiques, beaucoup de langues subsahariennes. Et ça dépend d'une année sur l'autre.
Et donc ça veut dire que vous, concrètement, vous adaptez vos propositions, vous adaptez la forme de votre spectacle, vous adaptez... C'est pas comme ça.
Non, d'abord c'était...
Je vous vois sourire.
D'abord c'était comment on met en valeur ces langues. Donc la première initiative, ça a été de faire venir un poète qui s'appelle Bruno Doucet, qui avait déjà travaillé sur ces langues, qui lui-même est éditeur d'œuvres bilingues. Et on lui a demandé d'écrire plusieurs poèmes sur la ville, dont on voulait que les habitants choisissent un poème, et qui serait ensuite traduit par les habitants, donc pas traduit, adapté. Et après transmis aux enfants dans la langue des parents. Ça c'était en fait du coup le plurilinguisme comme un terreau artistique plutôt au départ. Et puis après il y a différentes actions qui se sont mises en place. Par exemple quand on travaille avec des ateliers de socialisation linguistique où on se retrouve donc c'est des apprenants en français.
Oui.
Donc nous on intervient avec le jeu du comédien par exemple pour travailler aussi l'expression orale et l'expression corporelle. Voilà. Donc c'est comment on irrigue un petit peu et on répond aussi aux problématiques que peuvent rencontrer les gens dans leurs apprentissages et dans leur parcours individuel et dans leur valorisation aussi intime.
Alors c'est en lien, vous l'avez dit, avec la ville, avec la politique publique, c'est en lien aussi de près avec les individus, j'imagine les habitants, c'est pas très loin d'un théâtre forum, un peu comme ce que pouvait faire Augusto Boal, sauf que ça se passe en plusieurs langues.
On a des moments de restitution parce que à la fin de ces ateliers, on a besoin de donner la parole aux gens et on aime que ces restitutions elles se fassent aussi en plusieurs langues. Donc il y a eu un gros projet avec la BNF où on a amené un groupe de majoritairement de femmes qui sont venues dans le grand amphithéâtre de la BNF justement lire ce poème qu'elles avaient adaptées dans leur langue, à la fois en français et dans leur langue maternelle.
On reparlera de tout ça tout à l'heure avec Louise Bréhon et Basma Nasser, et vous pourrez peut-être nous dire pourquoi vous avez un si joli nom, la Constellation. Est-ce que ça raconte, on l'imagine un tout petit peu en vous entendant parler. Margot Canu, alors vous avez un mot d'ordre, lire et faire lire.
Tout à fait. Alors, Lire et faire lire, à la base, c'est une association du coup qui développe le goût de la lecture pour les enfants.
Ouais.
Donc, c'est des séances de lecture à voix haute auprès de petits groupes d'enfants. Et du coup, plus largement, la question du plurilinguisme, pour nous, c'est encore au stade de la réflexion, puisque on se demande un peu comment inclure d'autres langues en fait dans ces séances de lecture là, et pourquoi en fait que lire en français alors qu'il y a toute une multitude d'autres langues qui existent, et aussi dans la volonté de pouvoir parler aux enfants qui sont présents dans ces séances de lecture là, qui parfois ne parlent pas français ou alors sont plurilingues, voilà, parlent d'autres langues que le français.
Ces questions vont nous passionner parce que nous, l'équipe de Making Waves, on est installé en Seine-Saint-Denis, donc on retrouve les questions que vous avez sur Grigny, où le nombre de langues est absolument colossal. Et nous, dans l'équipe, on travaille aussi avec énormément de langues, et on se dit toujours, parce qu'il y a des choses qui paraissent assez évidentes, et il y a des choses qui ne le sont jamais. Il y a des choses sur lesquelles on bute en permanence, et je suis heureux, et on est heureux avec l'équipe, de partager ces questionnements avec vous, parce que finalement, que ce soit du côté de la lecture ou du côté de l'expression orale, il y a des choses qu'on a en commun, et peut-être que la constellation est entre les deux, parce que vous partez de textes et vous finissez par dire ces textes, par devoir traduire, adapter et dire ces textes. Laura Safier, Peuple et Culture, alors vous êtes une association.
Alors on a un mouvement d'éducation populaire, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'associations qui sont implantées un petit peu partout en France, aussi bien en territoires ruraux qu'en ville, qu'en quartier prioritaire de la ville. Et je pense que ce qu'on peut retrouver en commun avec Lire et Faire Lire et la Constellation, c'est que sur tous les territoires sur lesquels on a implanté, il y a forcément une diversité linguistique qui existe, que ce soit des langues étrangères ou même des langues régionales. On a une association qui travaille en Bretagne et qui a beaucoup d'actions autour du breton et qui mêle le breton au français, à l'espagnol. Et ce qui est important pour nous, je pense, dans la question du plurilinguisme, c'est vraiment la question de l'égale dignité de toutes les langues en fait qu'on va pouvoir rencontrer dans notre travail, en rencontrant les personnes qui viennent dans nos associations, et de pouvoir proposer des actions, co-construire des actions avec ces personnes qui vont venir avec leur langue, et avec le souhait de le partager et être dans la capacité de pouvoir offrir un espace en fait de communication, et un espace où on va pouvoir vraiment partager sa langue.
C'est ça qu'on comprend dans vos différentes pratiques à toutes les quatre, hein, que ce soit que ce soit à travers la lecture, à travers le théâtre ou à travers un mode associatif ou d'éducation populaire, comme vous le racontiez, Laura. C'est la mise en commun, c'est le partage, et c'est la capacité à échanger finalement, et aller travailler avec la langue de l'autre. Ça, accepter l'autre finalement dans son entièreté, et c'est pas essayer de le retirer, de le ramener à soi en permanence. On va reparler de vos trois associations, avec Louise Bréhon et Basma Nasser.
Bonjour, Thelma Dasses, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail si vous avez un projet en particulier au sein de l'asso?
Alors, au sein de l'association, on a plusieurs axes. Donc moi je travaillerai plus justement sur tout ce qui est autour de la lecture, autour du livre, autour de l'accessibilité à la langue, et donc sur ce volet-là, parce qu'après on a d'autres volets autour du street art aussi. Donc voilà, donc on est une petite équipe, on est cinq, mais voilà, donc et après sur les projets en particulier, il y en a plusieurs. En ce moment, on a un projet qui a commencé il y a 2 ans maintenant, à partir de boîtes à lire qu'on voulait implanter, donc qui est une demande de la ville de Grigny, de faire des boîtes à livres. On a fait des boîtes à lire, donc pour qu'elles soient vivantes, pour mener des actions de lecture autour de ces boîtes. Et donc, elles sont en train d'être implantées dans la ville. Et pour accompagner leur arrivée, on a fait appel à un auteur et une illustratrice pour raconter l'histoire de leur arrivée. Donc, avec les habitants, donc ils ont rencontré les habitants de la ville. On a écrit cette histoire. Là aussi, déjà dans cette histoire, mais ça, c'est en fait, c'est à chaque fois, c'est en fonction des gens qu'on rencontre. Donc, on a eu à un moment, donc il y a une comptine qui est chantée et la comptine qui apparaît dans le livre. Alors, j'ai oublié dans quelle langue elle est, en Wolof, c'est cette comptine-là dans cette langue-là, parce qu'il y avait une dame qui était avec nous sur une de ces rencontres, bah, qui connaissait une comptine qui, dans ce qu'elle racontait, collait bien à l'histoire qu'on voulait raconter. Cette histoire, il y a eu plusieurs adaptations depuis, notamment par les ATSEM, donc les accompagnatrices en école maternelle, qui en ont fait elles voulaient en faire un raconte-tapis. Elles en ont finalement fait un livre, mais cousu, donc grand format, pour pouvoir raconter cette histoire aux enfants de maternelle. Et donc là, on les accompagne aussi sur comment raconter cette histoire. Donc on a aussi dévier un peu, on n'écrit pas parce que c'est vraiment dans l'oralité, donc elles vont raconter un nouveau conte, et là aussi, en puisant, parce qu'elles ont toutes une langue maternelle ou plusieurs autres langues que le français dans leur, voilà, dans leur répertoire de langue parlée. Et donc l'idée, c'est toujours d'avoir toutes ces langues-là aussi présentes dans ce qu'elles vont raconter, aussi parce qu'elles se sont rendues compte dans le contact qu'elles ont avec les enfants, que quand généralement, sans le faire exprès, elles se mettaient à parler dans leur langue. Bah, y a des enfants qui d'un coup se sentaient concernés, d'un coup, enfin, s'éveillaient, on peut dire presque, parce que ils reconnaissaient, ils comprenaient enfin. Alors qu'avant, bah, ils étaient pas forcément captifs, parce qu'ils parlaient pas forcément français non plus. Donc c'est aussi, voilà, comment est-ce qu'elles finalement peuvent s'appuyer sur les langues qu'elles connaissent pour raconter des histoires aux enfants.
Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est une école maternelle. L'école maternelle, il y a ce terme maternel. Comment est-ce qu'on crée aussi des repères pour le tout petit, pour qu'il se sente familiarisé avec l'école dès son entrée? Et est-ce que c'est pas justement intéressant de s'appuyer sur ces ressources de langue maternelle pour créer des repères pour les enfants, pour qu'ils se sentent plus familiarisés? Mais ça veut dire aussi donner l'autorisation à ces femmes de parler leur langue maternelle. Parce qu'en fait, ce que disait Thelma, c'est que tantôt, il y a des mots qui leur échappent. Et elles le disent, ça leur échappe, comme si elles avaient fait une erreur de parler une autre langue dans ce contexte-là. Alors qu'en fait, elles voient tout de suite qu'il y a quelque chose de très positif dans la réception des enfants. Et il y a des phénomènes psychologiques, hein, qui s'expliquent. Il y a des enfants qui sont complètement mutiques à l'entrée à l'école parce qu'ils sont complètement perdus. Ils n'entendent pas la langue parlée à la maison. Donc après, la réflexion, ça va être comment on arrive à amener ces langues-là à l'école. Comment est-ce qu'on peut arriver à les reconnaître et se dire que c'est nécessaire?
J'avais une autre question. Du coup, les ATSEM, quand elles racontent leurs histoires, donc c'est des histoires qu'elles traduisent de leur langue maternelle ou...
Bah là, on est en train de travailler là-dessus, donc on n'a pas encore l'objet final, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir un tissage. Donc on aura une histoire en français et d'avoir dans cette histoire en français ces langues aussi qui viennent s'incruster. Et aussi, bah, tout le monde ne comprendra pas tout. Mais ce dont on s'est rendu compte aussi, justement, en commençant c'était le tout premier atelier qu'on a fait avec elle, c'était que des femmes, donc avec elle, y en a une qui nous a raconté une histoire en français, donc on a tout compris ce qu'elle nous racontait, et ensuite elle nous l'a raconté dans sa langue, et dans la manière dont elle la racontait, bah, on a tout compris aussi, parce que le corps était engagé, parce que tout de suite, il y a autre chose qui se transmet. Et donc, en fait, c'est ça aussi, c'est comment... ça transmet des choses aussi, on comprend des choses aussi. Et donc, d'où bah, quand même un fil qui restera compréhensible par, a priori, tout le monde, en tout cas par la majorité en français, et avec, voilà, avec ces différentes langues qui viendront s'incruster dedans.
Merci beaucoup. Laura, donc vous nous avez un peu expliqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez préciser les actions que vous menez au sein de l'asso?
On a un spectre de travail qui est assez large, donc on est un mouvement d'association d'éducation populaire, donc notre projet associatif, ça se construit autour des différents principes qui animent l'éducation populaire, donc c'est la question de l'émancipation, la question de la prise de conscience du pouvoir d'agir de chaque personne. Et pour travailler sur ces sujets, on va beaucoup passer par les pratiques artistiques et culturelles, donc par le livre, par la lecture, et on va proposer beaucoup des actions autour de la question de la question du plurilinguisme. Donc comme action développée autour de ça, on a par exemple un dispositif qui s'appelle les Globe Lecteurs. Donc c'est un dispositif de lecture plurilingue dans lequel on va constituer un groupe de bénévoles donc qui peuvent être parents ou non. Le seul prérequis de base, c'est de parler une autre langue que le français et d'avoir la volonté de lire dans cette langue et de la partager. Donc l'idée, c'est que le groupe va se rassemble en amont et va préparer tout un montage de lecture dans différentes langues. Et pour ça, il y a aussi tout un travail de recherche de livres et d'albums jeunesse en différentes langues. Et après, les lectures se font soit à l'école, soit dans les locaux de nos associations, soit en bibliothèque, enfin voilà, en fonction du moment. Et il y a aussi cette question qui est intéressante pour nous, surtout quand ça se fait à l'école, c'est l'intervention de parents d'élèves, en fait, dans ces lectures. Faire intervenir les parents, donner une place aux parents dans ces cercles de lecteurs, enfin, ça crée tout de suite un tout autre rapport, en fait, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de l'école enseignante, pour les enfants aussi, voir leurs parents venir à l'école et lire et partager leur langue avec les autres. Enfin, voilà, ça crée tout un déplacement du regard, aussi bien pour les parents qu'à l'école. Donc voilà, on a des initiatives comme ça au niveau local, notamment de lecture plurilingue, et au niveau de la tête du réseau Peuple et Culture, donc on a lancé une recherche-action qui vise un petit peu à... dont l'enjeu principal, en fait, c'est le croisement entre pratiques d'éducation populaire et les droits culturels. Et les droits culturels, enfin la question de la langue est un droit culturel, donc c'est forcément quelque chose qui relie toutes les actions qu'on fait autour du plurilinguisme. Et donc on a fait une sorte, pas de diagnostic, mais d'analyse un petit peu des différentes pratiques qui sont développées dans notre réseau autour des questions des langues, pour voir un petit peu les différentes façons dont ça peut être abordé en fonction des territoires. Et là, en 2023, on est en train d'ouvrir ce groupe de travail à d'autres associations pour continuer à croiser un petit peu, voilà, les différents regards et les différentes façons de faire sur toutes ces questions.
Et comment votre projet, il peut améliorer les communautés entre différentes langues et différentes cultures?
Dire qu'on va tout améliorer avec nos actions, c'est l'objectif, je sais pas si... Enfin, je pense qu'il faut rester modeste dans ce qu'on peut faire, mais je pense que nous, notre objectif, c'est vraiment de créer un espace où chaque langue a une égale dignité. Je pense que cette notion de dignité, c'est une notion qui est vraiment au centre de la question des droits culturels, et c'est ces notions-là qu'on essaye vraiment de pousser et de valoriser dans nos différentes actions autour du plurilinguisme.
Et dans cette cadre, est-ce qu'il y a des difficultés dans votre travail? Et parce que il y a, par exemple, blanc, il parle pas du tout la langue française.
Bah, je pense que la question du plurilinguisme, forcément, c'est lié à celle de l'apprentissage linguistique. C'est aussi replacer la question de l'intime et du sensible au cœur de la langue, sortir un petit peu du rapport utilitaire qu'on peut avoir, notamment dans l'apprentissage du français pour des personnes, par exemple, qui arrivent en France. Voilà, c'est un petit peu avoir cette entrée plus sensible de la langue, plus liée à l'intime. et aborder en fait la linguistique par d'autres biais, aborder l'apprentissage linguistique par le biais des pratiques artistiques et culturelles, par exemple.
Merci beaucoup. Maintenant, Margot Canu, est-ce que vous pouvez nous préciser les actions que vous faites ? Donc vous êtes à Lire et Faire Lire, vous êtes coordinatrice de l'association.
Oui, tout à fait. En fait, comme la Constellation, on est une petite équipe. En fait, on est quatre dans l'équipe nationale. Donc, on est effectivement tous coordinateurs, coordinatrices. L'idée, en fait, de lire et faire lire, donc on a plusieurs actions à mener. On s'occupe, par exemple, moi personnellement, par exemple, je m'occupe de tout ce qui est milieu rural, préadolescent, développer aussi la lecture dans tout ce qui est centre de loisirs. En fait, c'est vraiment des sujets qui émergent en fonction des réalités de terrain, puisqu'on a des coordinations du coup départementales dans chaque département. Et l'idée de nous, notre équipe, c'est d'accompagner ces coordinations départementales-là. Donc voilà, en fait, c'est vraiment des sujets qui émergent en fonction des réalités de terrain, comme je le disais. Et le plurilinguisme, du coup, en fait partie, puisqu'on note une volonté en fait de certaines coordinations et de plus en plus de coordinations dans les départements à être accompagné sur justement les lectures bilingues, les lectures plurilingues, voilà, avoir un accompagnement particulier sur ces sujets-là.
Et qu'est-ce qu'une lecture bilingue ?
Alors, les lectures bilingues qui sont développées chez Lire et Faire Lire, ça part souvent en fait d'initiatives individuelles, puisque on a par exemple un exemple dans le Rhône d'une lecture bilingue qui est développée c'est une bénévole qui est espagnole, donc qui a l'espagnol comme langue maternelle, qui souhaitait faire des lectures à des petits groupes d'enfants à voix haute dans sa langue, donc en espagnol. Donc ce qui a été mis en place, c'est que c'est un binôme en fait de bénévoles lectrices qui lisent à la fois en français et à la fois en espagnol sur le temps périscolaire, donc une fois par mois. Et même en fait, s'il n'y a pas forcément d'enfants qui parlent l'espagnol dans le groupe d'enfants, ce qui est remonté, c'est que c'est très positif pour tout le monde, puisque ça les habitue justement à entendre des lectures dans d'autres langues, à entendre des accents particuliers, à entendre voilà des histoires qui sont lues dans une langue qui n'est pas forcément la leur. Et par exemple, s'il y a des enfants qui parlent cette langue-là dans le groupe, c'est aussi très gratifiant, puisque ça les remet dans une place, ça leur donne en fait une place un petit peu particulière au sein du groupe qu'ils n'avaient pas forcément avant. Ou voilà, ça leur permet d'entendre aussi leur langue, ce qui change un petit peu de ce qui est fait d'habitude, puisque c'est souvent aussi le français qui prime, donc voilà, ça permet de donner une place particulière. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, on a d'autres exemples aussi de lectures bilingues qui se font souvent en binôme. Donc c'est une partie de l'histoire qui est lue en français, puis l'autre dans une autre langue, ou vraiment à tour de rôle, voilà. C'est...
Qui sont vos lecteurs ou lectrices ? Ce sont des bénévoles ? Comment ça se passe ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est des bénévoles. On a une petite particularité au sein de Lire et Faire Lire, puisque on a à la fois comme objectif de développer le goût de la lecture chez les enfants, et aussi une deuxième branche qui est le lien intergénérationnel. Donc les bénévoles sont des bénévoles lecteurs de plus de 50 ans. Voilà, mais oui, effectivement, c'est des bénévoles lecteurs ou lectrices qui interviennent régulièrement dans des structures, donc dans tout type de structures. Ça peut aller de la crèche, l'école en général, le collège, mais aussi les centres de loisirs, les bibliothèques. Voilà, c'est en fait toutes les structures qui accueillent des enfants. Qui accueille des enfants.
Et dans votre projet, est-ce qu'il y a, par exemple, si je parle arabe devant tout le monde, parle pas arabe, est-ce que ce sera ça, il y a confiance, il y a de peur, ce sera comment ?
Alors, on a déjà eu des retours en fait de terrain de lecture qui ont été faites par exemple en arabe, par exemple dans d'autres langues, auprès d'enfants justement qui parlaient pas cette langue-là, et les retours étaient très positifs, puisqu'en fait ça, même sans forcément parler cette langue-là, il y a tout ce qui est transmission de la musicalité de la langue, le fait d'entendre même quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, donc ça peut faire peur dans un premier temps en fait, notamment aux bénévoles en fait, qui se disent mais personne ne va rien comprendre, et en fait c'est pas du tout le cas. C'est très positif à chaque fois dans les deux sens, même si les enfants ne parlent pas cette langue-là au début. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permet à la fois d'intégrer les enfants qui parlent cette langue et à la fois de parler aussi aux enfants qui ne la parlent pas. Bah, du coup, nous, on essaye aussi de mettre en avant les différentes ressources qui existent dans des langues étrangères. Et on a eu, par exemple, un retour. On a une opération qui s'appelle le Prix Poésie. Donc, c'est une opération qu'on mène chaque année. Et on essaye aussi de mettre en avant, par exemple, des poèmes qui existent donc, en bilingue. Et donc, dans les années précédentes, on a mis en avant un ouvrage qui était en franco-arabe. Et en fait, on a eu des retours très très positifs de la découverte de poèmes en arabe. Donc voilà, ça a très très bien fonctionné.
L'idée de ce plateau, de cette table, était de faire un retour d'expérience sur vos différentes pratiques, si ça marchait, les difficultés que vous rencontriez. Et en vous écoutant, on se dit que beaucoup de choses sont liées à des données individuelles. Comme le disait Basma, finalement, ça va dépendre de la volonté de quelqu'un. Ça va dépendre de son envie. En fait, déjà de s'exprimer dans une autre langue que le français, avec les mises en danger qu'il peut y avoir aussi. Et ça va être pour les auditeurs et les gens en face, ça va être accepter ça aussi. Parce que j'imagine, pour la constellation, vous voyez ça directement, c'est pas toujours simple. On passe dans une autre langue, les langues ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. C'est ce que vous nous disiez, Thelma, quand on fait un conte et que d'un coup ce conte est à la fois en français, à la fois en Wolof. On perd quelque chose d'un côté parce qu'on comprend moins le français, mais comme vous le disiez, Émilie, eh ben, le Wolof est une langue avec des sonorités magnifiques et on entend donc autre chose, on entend une musicalité. Et j'ai l'impression que quand on parle de plurilinguisme, on est en permanence confronté à tout ça et tout ça se dénoue par des rencontres. Finalement, ça se joue, on peut tabler, on peut espérer des choses, mais il y a toujours quelque chose où à un moment c'est quelqu'un, comme vous le disiez, Margot, quelqu'un qui va venir et qui va dire « moi je parle espagnol et j'ai envie de lire en espagnol ». Et là, des enfants vont se retrouver à écouter de l'espagnol sans nécessairement le parler. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion.
Merci Margot Canu, merci Thelma Dassès, merci Émilie Petit-Étienne et merci Laura Safier.